France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Sommes-nous tous un peu bisexuels? C'est la question un peu provocatrice que nous posons ce matin dans l'émission. Woody Allen disait qu'il est incontestable que le fait d'être bisexuel double vos chances de rencontrer quelqu'un samedi soir. Et pour Papa Freud, tout être humain posséderait des dispositions sexuelles masculines et féminines, une bisexualité innée psychique qui serait une étape vers l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Une vision de la bisexualité battue en brèche aujourd'hui, tant cette orientation est vécue à part entière par exemple 10% des moins de 30 ans selon certaines études. Les bisexuels qui subissent des stéréotypes tenaces, des discriminations, une marginalisation même au sein des milieux LGBTQ. Comment expliquer cette stigmatisation et ces préjugés tenaces qui affectent la santé mentale des personnes bisexuelles, notamment des jeunes? Une étude britannique de 2017 a montré que 2/3 des bis ne se sont déjà sentis très tristes et désespérés contre la moitié des homos et 27% des hétéros. Plus grave, 48% des jeunes bis ont sérieusement envisagé le suicide contre 37% des homos. Toutes vos questions, vos témoignages sur la bisexualité, la vôtre ou celle de vos enfants ou petits-enfants, au standard ou sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Allez Rébéi.
Bonjour Camille Test.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes journaliste, essayiste et vous publiez aux éditions Les Renversantes un très bel essai, bien documenté, Embrasser la bisexualité. Bonjour Olivia Benamou.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicienne, sexologue au service universitaire de médecine préventive de l'Université de Rouen et vous aviez publié en 2022 au Cherche Midi un très bon petit guide d'entrée dans la vie sexuelle où vous abordiez évidemment la question de l'orientation sexuelle. Bonjour Serge Fès, bienvenue.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes psychiatre et psychanalyste et vous êtes praticien au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et vous êtes en direct de votre bureau.
Absolument, où je vous écoute avec attention.
Alors selon le Robert, la bisexualité c'est, je cite, la disposition sexuelle du psychisme, à la fois masculine et féminine, inhérente à tout individu, une définition très freudienne qui ne vous conviendra pas totalement, je le subodore Camille Test. Quelle est votre définition de la bisexualité?
Moi, je me range du côté d'une définition qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui est le fait de dire qu'être bisexuel, c'est être attiré par plus d'un genre. On ne parle plus de masculin et de féminin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, des gens ne se retrouvent plus seulement dans les genres masculin et féminin. Donc, parler de plus d'un genre, ben, ça permet d'être englobant, inclusif, et ça n'enlève rien à personne.
Et c'est d'être attiré romantiquement et ou sexuellement. Ça, c'est très important, cette nuance.
Ça l'est parce qu'en fait, il y a aujourd'hui des personnes qui sont sur le spectre asexuel, donc qui ne ressentent pas forcément d'attirance sexuelle pour autrui, et pourtant qui peuvent ressentir des attirances romantiques, ou bien des gens qui ne ressentent pas d'attirance romantique mais sexuelle. Donc, à nouveau, soyons englobants et parlant d'attirance sexuelle et ou romantique.
Olivia Benamou, votre définition de la bisexualité?
Pour moi, c'est très classiquement, moi qui suis de l'ancien monde, très classiquement le fait d'être attiré sexuellement par un homme ou une femme. On peut être aussi être attiré sexuellement par quelqu'un qui se définirait comme non-binaire. Voilà, après, je pense que ça va être important de faire tout un travail de définition. Vous avez commencé un petit peu, mais c'est aujourd'hui extrêmement compliqué, je pense, pour les personnes de l'ancien monde, de comprendre tout ce vocabulaire qui est pourtant important. Puisque effectivement il faut bien nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde. Mais j'aimerais bien que vous précisiez aussi la différence avec la pansexualité, parce que c'est quelque chose d'assez proche finalement dans votre définition.
Oui, en fait, à partir des années 90-2000, quand la grande conversation arrive sur le genre, justement, où on se rend compte qu'en fait le genre est à construire et que donc on ne se retrouve pas forcément dans le genre dit masculin ou féminin, des personnes qui ressentent des attirances, on va dire plurielles, pour plus, donc pas seulement pour les hommes ou pas seulement pour les femmes vont dire bon ben j'ai besoin de verbaliser le fait que mes attirances elles vont au-delà de la question du genre, elles ne sont finalement pas liées au fait d'être un homme, une femme ou autre, et donc va naître le terme pansexualité, pan qui signifie tout, on va dire, donc on est attiré par les gens de tout genre ou indépendamment de leur genre. En fait aujourd'hui quand on regarde comment les gens définissent pansexualité ou bisexualité, finalement on pourrait parler presque d'un synonyme, mais c'est important de dire que eh ben, si des gens préfèrent dire pansexuel, c'est pas à moi de leur dire, bah non, c'est pareil que bisexuel, c'est vraiment chacun décide en fait. Okay.
Serge Effes de l'Ancien Monde, et j'en fais partie également.
Je me sens très seule.
Votre définition de la bisexualité, je rappelle que vous êtes également psychanalyste, en plus d'être psychiatre.
Absolument, et la psychanalyse ne fait pas encore tout à fait partie de l'Ancien Monde, elle a encore des éléments d'actualité à défendre, mais si je fais partie de l'Ancien Monde, tout à fait, je fais beaucoup partie du Nouveau Monde, parce que j'ai une consultation qui est entièrement dédiée aux questions de fluidité de genre, de transition de genre, et je reçois énormément de jeunes qui sont dans ces situations qui viennent d'être décrites, c'est-à-dire qui s'interrogent sur leur genre avant de s'interroger même sur leur sexualité, et que quand on est dans cette interrogation de la fluidité de genre, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, de se sentir un petit peu entre les deux ou ne pas vouloir se nommer ni comme garçon ni comme fille, la question de la bisexualité, elle se pose même pas en tant que telle. C'est-à-dire que forcément, il y a une pansexualité, il y a un accueil de l'autre, quel que soit son genre, quelle que soit sa sexualité, et j'ai l'impression que de plus en plus de jeunes sont dans cette situation à l'heure actuelle, c'est-à-dire une situation d'accueil. Ils ne prévoient pas finalement vers qui ils vont être attirés, mais ils sont attirés par une personne, et c'est avec cette personne qu'ils inventent une sexualité peut-être différente de celle qu'ils avaient auparavant.
Olivia Benhamou ?
Oui, en effet, dans la consultation auprès des étudiants, c'est souvent ce discours qui est tenu, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est avant tout la rencontre avec une personne, quel que soit son genre. Je pense aussi qu'au fil de la vie et des expériences, des orientations peuvent se prendre, et on peut être vraiment surpris soi-même, c'est quelque chose qui revient. Quand même, la surprise, le fait de d'être vraiment pris au dépourvu d'une attirance qu'on n'a pas anticipée, qu'on n'a pas théorisée, et donc ce sont ces expériences qui au fur et à mesure créent la complexité de ce chemin de l'orientation sexuelle qui évolue tout au long de la vie en fait.
Camille Test, votre livre Embrasser la bisexualité est né d'une incompréhension autour de vous. Vous êtes bisexuelle et vous vous êtes rendu compte au cours de votre vie affective et sexuelle, et bien de tous les stéréotypes, de tous les préjugés, des discriminations subies par les bisexuels, même au sein des milieux LGBTQ.
On le voit à la fois dans les représentations, par exemple au cinéma, mais aussi dans les discours des gens qu'on peut rencontrer. Vous l'avez dit, à la fois dans le monde majoritaire, on va dire hétéro, et aussi dans les milieux LGBTQ+, que finalement, les personnes bisexuelles vont souvent être regardées, avec des stéréotypes qui sont sur un spectre entre légèrement instable, quelqu'un qui ne saurait pas choisir, qui serait un peu perdu tout le temps sur son orientation, à complètement psychopathe. Des représentations, Sharon Stone dans Basic Instinct, par exemple, ou alors des pervers comme Frank Underwood dans House of Cards, ont vraiment alimenté cette image de bi qui serait complètement duplice, menteur, manipulateur. Et il faut bien dire que c'est quelque chose qui a des conséquences très concrètes sur la vie des bi, puisque si vous êtes perçu comme ça par vos amis, vos partenaires, les gens que vous rencontrez au travail, ça peut avoir des conséquences sur la façon dont vous êtes traité et maltraité.
Serge Effes.
Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, la question bisexuelle telle qu'elle se posait il y a 20 ou 30 ans et telle qu'elle se pose aujourd'hui, je crois que ça a énormément évolué et ça ne fait plus du tout appel aux mêmes images. Il y a 30 ans ou 40 ans, moi je m'occupais beaucoup de sida et l'image des hommes bisexuels, par exemple, était catastrophique parce qu'ils ne faisaient pas partie des statistiques habituelles, homosexuels, toxicomanes qui contractaient le sida, ils étaient donc hors tous les sentiers battus et toutes les normes, ils apparaissaient comme extrêmement dangereux parce que, étant bisexuels, ils pouvaient se contaminer dans une relation homosexuelle et contaminer ensuite leur conjointe ou leur épouse lors de rapports sexuels. Donc cette image un petit peu dangereuse, un petit peu sulfureuse, elle a beaucoup été développée à ce moment-là. Et puis les choses, heureusement, ont beaucoup évolué, les jeunes ont beaucoup évolué et ils sont bien davantage aujourd'hui, effectivement, ils refusent un petit peu ces étiquettes-là qui sont trop enfermées, et ils se laissent aller à la surprise, à la surprise de la découverte, à la surprise de la rencontre avec l'autre. Et combien de fois, moi, j'entends des jeunes de 17, 18, 19 ans que je reçois qui, une semaine, ils sont amoureux de Paul, la semaine d'après, ils sont amoureux de Marie, et la semaine d'après, encore de quelqu'un d'autre. Et ça ne leur pose aucun problème identitaire. Ils ne s'interrogent pas sur la nature de leur sexualité, parce que ce qui leur importe, c'est la rencontre, c'est la découverte, c'est la surprise, c'est la rencontre amoureuse.
Et Camille, vous abordez cette question de la dangerosité supposée des personnes bisexuelles.
Et je crois qu'effectivement, nous, les bis, on est souvent représentés comme des personnes dangereuses. Je remercie Serge Effès d'avoir parlé des années du VIH-Sida, où effectivement, je crois que les plus jeunes ici doivent se représenter que des magazines comme Cosmopolitan aux États-Unis, par exemple, faisaient des dossiers entiers sur les hommes bis pour prévenir les femmes du danger des hommes bisexuels. Et à nouveau, hein, ces stéréotypes de duplicité, de manipulation ont aussi pu toucher les femmes bisexuelles hein, pour en faire des manipulateurs, des manipulatrices. On l'a vu dans le procès Amber Heard contre Johnny Depp, où Amber Heard, qui est une femme bisexuelle, a été vraiment, sa bisexualité a servi à alimenter une image de femme manipulatrice qui serait là pour l'argent, qui finalement aurait parlé de violence conjugale pour obtenir des intérêts, et donc en fait pour décrédibiliser la parole d'une victime.
Camille, vous avez posé la question à des inconnus, c'est quoi être bisexuel ? Alors voici quelques réponses que vous avez reçues. Une personne bi est une personne qui n'a pas de limite dans ses attirances. Être bi, c'est aimer goûter à tout. Les bi sont des hétéros qui n'assument pas qu'ils sont pédés. C'est une citation, c'est pas moi, c'est la citation de la personne qui vous a répondu ça. Les bi, je ne sais pas si ça existe vraiment. Et c'est une personne qui n'a pas réussi à choisir.
Je tiens à dire que c'est OK pour les gens de pas forcément savoir exactement ce que c'est la bisexualité, parce que déjà on ne naît pas avec un savoir absolu. Ce qui est intéressant, c'est de se renseigner quand on ne sait pas et de pas dire des choses qui peuvent être blessantes si possible. C'est important aussi pour les personnes bisexuelles, parce que encore une fois, de plus en plus de gens se disent et se ressentent bisexuels, et en même temps on a tellement peu de représentation, c'est tellement invisibilisé, et bien que si on n'entend que des choses affreuses sur nous ou des choses qui sont fausses, comment est-ce qu'on peut construire une image stable et joyeuse de nous-mêmes ? C'est beaucoup plus compliqué.
Vous racontez dans votre livre qu'évidemment, des hétérosexuels, des homosexuels, il y en a partout, bien sûr, mais qu'on oublie souvent qu'il existe une troisième voie.
Oui, l'expérience la plus facile à faire, c'est promenez-vous dans la rue, vous croisez un couple avec des gens qui ont l'air de même genre, vous allez vous dire voilà deux lesbiennes ou deux gays, des gens de genres différents, vous allez vous dire voilà deux hétéros. Vous n'allez jamais vous dire ah bah, ces gens pourraient être bisexuels, alors que toutes les personne dont je parle pourrait être bisexuelle. Vous allez me dire, mais en fait, je m'en fiche de projeter une orientation sexuelle, mais non, parce qu'à nouveau, vous projetez des stéréotypes, vous projetez tout un univers mental derrière. Donc, c'est plutôt important, en tout cas, de considérer que oui, la bisexualité existe.
Et nous accueillons Véronique de Rouen. Bienvenue, Véronique.
Bonjour.
Bienvenue. Que vous inspire notre question du jour ? Sommes-nous tous un peu bisexuels ? Question un peu provocatrice ce matin.
Oui, c'est sûr. Après, c'est la question de l'identité. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord aussi parler du sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément de qui on tombe amoureux. Et tomber amoureux, bah, comme le mot l'indique, ça nous tombe dessus. Moi, j'ai vécu pendant toute ma vie avec des hommes. Et à 45 ans, je suis tombée amoureuse d'une femme. Je ne me suis pas identifiée comme étant homosexuelle ni bisexuelle. Je suis tombée amoureuse. Et c'est dans le regard des autres, en fait, que j'ai vu le jugement et que j'ai vu qu'on me donnait une identité sans que moi j'ai eu le temps de me la poser, en fait, cette question. Et qu'au final, c'est le jugement des autres parce que c'est juste un sentiment amoureux et on tombe amoureux de quelqu'un qui nous touche profondément et on ne choisit pas forcément.
Si je comprends bien, vous vous êtes sentie bisexuelle dans le regard des autres. C'est bien
ça ? C'est ça. Exactement. Bisexuelle ou homosexuelle en fonction de comment on me renvoyait mon identité. Alors qu'au final, moi, je ne m'étais même pas posé cette question. J'étais juste tombée amoureuse.
Olivia Benhamou.
Voilà.
Oui, merci pour ce témoignage. En effet, enfin, je pense que beaucoup de personnes qui ont un partenaire d'un sexe et enfin d'un genre et au bout d'un certain nombre d'années rencontrent quelqu'un d'un autre genre font cette expérience assez bouleversante, ce qu'on disait tout à l'heure, de la surprise, de la rencontre et en effet cette problématique de la catégorisation sociale, enfin tout ça a à voir finalement avec la question de la norme en réalité, des normes sexuelles. Vous citez dans votre bouquin l'anthropologue et féministe Gaëlle Rubin, qui est vraiment intéressante sur cette question, enfin, qui dit qu'il y a vraiment... enfin, elle parle d'une pyramide avec une scission entre ce qui serait complètement normal et ce qui ne serait pas. Et tout ce qui échappe, en effet, à cette tradition hétérosexuelle devient finalement, enfin tombe sous le coup de la normalité, de la perversion, de aujourd'hui on parle de paraphilie. Enfin bon, il faudrait rappeler aussi que l'homosexualité est sortie du manuel diagnostique
du DSM
seulement dans les années 70. Donc
c'est la bible de la psychiatrie américaine.
Tout à fait. Bon, moi je voudrais quand même dire que j'ai grandi, j'étais ado dans les années 80 et pour moi la plus grande icône du monde musical, c'est David Bowie. Ouais. Et David Bowie, c'est un bisexuel extraordinaire, flamboyant, il semble joyeux, il est porté aussi par une créativité que je trouve intéressante. Et peut-être qu'il faut rappeler aussi ce genre de figure positive, d'identification positive, parce que je pense que les jeunes qui se sentent discriminés ne vont pas être aidés si on leur dit sans arrêt que c'est tout le temps une source de souffrance, de malheur, de détresse. C'est aussi une source de créativité, d'inventivité, et on en a besoin aujourd'hui.
Camille Tess, d'ailleurs, je signale qu'à la fin de votre livre, vous célébrez la joie d'être bisexuel. Ce n'est pas qu'un livre qui ne constate que des stigmatisations, des marginalisations. Il y a aussi de la joie.
Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement joyeuse et optimiste, et à la fois, je suis quelqu'un de lucide. Donc, mon projet, moi, c'était de poser et d'essayer d'exprimer avec le plus d'objectivité possible la réalité qui est celle des personnes bi aujourd'hui, et à la fois, effectivement, moi, je suis profondément fière et heureuse d'être bi. Je pense, je vous rejoins tout à fait quand vous parlez de David Bowie ou de figures comme ça qu'il faut célébrer. Peut-être aujourd'hui, dans le monde contemporain, on pourrait parler de Angèle, de Théodora, d'artistes comme ça qui sont d'une créativité et qui posent un regard bi, hein, quelque part, sur le monde. Et puis oui, dire aux gens qui se ressentent bisexuels que c'est une expérience qui est formidable.
Serge Éphèse.
Oui, il s'est dit, enfin Véronique nous a, dans son témoignage, dit quelque chose de très important, c'est-à-dire elle dit « je suis tombé amoureux d'une femme, je m'y attendais pas, ça a été une très belle expérience, mais pourquoi est-ce que ça me donnerait une identité ?» Et c'est cette question de l'identité qui est en jeu ici, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une attirance sexuelle doit créer une identité ? Il n'y a aucune logique à ça. Or, cette question de l'identité, et Foucault l'a très bien montré, elle naît à la fin du 19e siècle, quand on enferme toutes les différentes sexualités, bisexualité, hétérosexualité, pansexualité, etc., dans des cases identitaires, et que les gens perdent finalement leur liberté d'être, parce qu'à partir du moment où vous êtes enfermé dans une identité, ça devient un stigmate. Et ça veut dire que les gens vous regardent à travers cette identité. Donc si vous êtes gay, ça veut dire que vous allez avoir telle caractéristique, si vous êtes hétéro, vous allez avoir telle autre, si vous êtes bi, c'est encore une nouvelle case identitaire. Or, il me semble que ce qui est important aujourd'hui, c'est de sortir de ces catégories identitaires. Les identités, il y en a suffisamment, et on nous en met suffisamment sur le dos pour nous coller au basque toute la journée. Il n'y a pas besoin que la sexualité crée aussi une identité. La sexualité, c'est autre chose. C'est une joie de vivre, un plaisir de vivre, une attirance, des plaisirs, parfois des peines, mais ça n'est pas une identité.
Camille Test.
Alors, je vous rejoins. Effectivement, je pense que dans un monde idéal, on sort des identités qui peuvent être extrêmement enfermantes. Le fait est qu'aujourd'hui, moi, on me dit souvent « Mais pourquoi tu tiens absolument à te coller l'étiquette bisexuelle ?» En fait, c'est la société qui me colle cette étiquette, et ça vient, on l'a dit, avec des stéréotypes et qui a des conséquences très concrètes, très matérielles sur moi. Et donc, souvent, et c'est pareil avec d'autres identités en lien avec d'autres espaces de domination, quand on se revendique homosexuel, quand on se revendique trans, je sais pas, même une femme, on pourrait questionner l'identité femme ou l'identité, noire ou autre, c'est de dire cette réalité vient avec des conséquences, des dominations, des oppressions. Pour les bi, on vit de l'homophobie et de la biphobie, par exemple. J'ai besoin de les nommer pour attirer l'attention dessus, pour que ça change, pour effectivement avoir finalement les mêmes chances et une forme de paix vis-à-vis de mes réalités et de mes attirances, comme les personnes hétéros.
Merci beaucoup, Véronique. Dans un instant, après le disque, on écoutera Françoise qui nous parlera de la bisexualité de son petit-fils. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Et on écoute Stéphane Escher. Combien de temps, titre de 1987, 10h24 sur France Inter.
Sans un mot.
Stéphane Escher, combien de temps ça nous rappelle des souvenirs, Olivia Benhamou? On a le même âge, donc on était quoi, en troisième à l'époque?
<C'est ça. rire>
À peu près.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Sommes-nous un peu bisexuels? C'est notre, tous un peu bisexuels, c'est notre thème ce matin avec l'autrice Camille Test qui publie Embrasser la bisexualité, avec la psychologue clinicienne et sexologue Olivia Benhamou et avec le psychiatre et psychanalyste Serge Effez et notre cher technicien Julien qui me donne au casque sa définition de la bisexualité. Je vous la soumets, chers invités. Je ne m'intéresse pas à la tuyauterie, ce sont les gens qui m'intéressent. Camille Test qui lève le pouce, ça vous va?
J'adore, j'aurais dû mettre ça dans mon bouquin.
Ça sera pour la prochaine édition. Alors, et nous accueillons Françoise. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour. Je m'excuse, je suis très émue parce que tout ce qui touche mes petits-enfants, ça m'émeut. Voilà, je vous parle de mon petit-fils qui est bisexuel. Mm-hmm. J'ai moi-même peur de lui en parler, je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que dans ma famille, il y a des réflexions aujourd'hui permanente contre les bisexuels. Mmh. Alors, je voulais savoir comment m'y prendre. Mmh.
Quel genre de réflexion, Françoise?
Les PD, tout ça, un truc comme ça. Hein.
C'est de l'homophobie. Mmh. Et de la biphobie. Il a quel âge, votre petit-fils?
23 ans.
Camille Test, vous abordez la question de la biphobie, de l'homophobie, de la santé mentale des jeunes bisexuels avec des chiffres assez éloquents, assez terribles. Je cite quelques statistiques, des statistiques clairement négatives. Les femmes bi ont 30% de risque de vivre un épisode dépressif majeur. Les hommes bi, c'est 23%. Les ados bi sont 48% à avoir sérieusement pensé au suicide contre 37% des homos, et les ados bi sont 27% à avoir déjà essayé d'attenter à leur jour contre 19% chez les homos. Pourquoi ces chiffres aussi négatifs? Et vous confirmerez, Olivia Benhamou, il y a d'autres études, notamment une étude de 2024.
Une revue de la littérature, en fait, qui reprend un petit peu
qui va dans ce sens-là.
La totalité des études qui ont été publiées sur le sujet.
Une méta-analyse.
Une méta-analyse
qui confirme
que les personnes bisexuelles souffrent particulièrement de discrimination.
On va répondre à votre question, Françoise, mais c'est important de faire ce préalable. Camille Test, comment expliquer ces chiffres aussi négatifs?
Les personnes bi sont des personnes LGBTQ+, qui subissent de l'homophobie, par exemple comme les gays et les lesbiennes, mais ont en plus de ça des stéréotypes qui leur sont propres. On parlera de stéréotypes biphobes, je l'ai abordé tout à l'heure, et sont aussi invisibilisés, c'est-à-dire qu'on ne se voit nulle part, les gens ne considèrent même pas qu'on puisse être bisexuel. Un quart des hétéros en France, par exemple, considèrent que la bisexualité n'existe pas. Et donc, tout ça, ça alimente une forme d'image de soi qui est négative, une honte de soi, une haine de soi. On grandit en se disant, moi par exemple, alors même que j'ai écrit un livre sur le sujet, je continue à me dire parfois, mais en fait, est-ce que t'es pas en train de te mentir et de mentir au monde? Est-ce que t'es pas hétéro ou est-ce que t'es pas lesbienne? Et tout ça, ça crée une espèce de sentiment instable de soi qui fait qu'en plus, on doit toujours se justifier. Hein. L'exemple de cette auditrice le dit, on doit, même au sein même de sa famille, qui doit être une entité normalement de protection, de stabilité, on doit se justifier. On reçoit des commentaires qui sont négatifs, blessants, parfois violents, peut-être même des comportements qui peuvent être violents. Et donc, in fine, ça alimente des chiffres d'anxiété, de dépression, d'addiction qui sont très forts, et je tiens à l'ajouter, ça n'est pas juste des problèmes de santé mentale. Les personnes bisexuelles sont, quand on regarde les chiffres, plus précaires en moyenne que les hétéros, mais aussi que les gays et que les lesbiennes. Donc ça a des conséquences qui sont très matérielles sur nous, et encore une fois, pour répondre à Serge Effez tout à l'heure, c'est pour ça qu'on se donne aussi ce mot et cette identité, c'est parce qu'on a besoin d'expliquer avec quoi ça vient.
Olivia Benhamou.
Oui, par rapport au témoignage de l'auditrice, en effet, dans les familles, il y a souvent des fractures et énormément d'homophobie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Je pense que la biphobie est moins connue. Et je vous parlais de parapluie, bi, etc. C'est intéressant comme notion. Je pense qu'on pourrait aussi, allier les combats. Hein, et je pense que le fait d'être simplement, de développer une forme de xénophobie, je dirais, parce que finalement, ça relève aussi de la xénophobie, c'est-à-dire tout ce qui est différent de moi, tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui m'est inaccessible, je le rejette, je le condamne, je le méprise, et c'est quelque chose d'extrêmement courant que les jeunes adultes, en tout cas ceux qui entrent dans leur vie sexuelle et qui se posent des questions sur qui ils sont en termes d'identité et également d'orientation, partent des constats qui sont faits au sein de leur famille et des choses qui leur ont été transmises, que ce soit sur le plan culturel, religieux, sociétal. Qu'est-ce que c'est que la norme, en fait? Et on se construit avec ça, c'est-à-dire contre, avec, de manière extrêmement complexe. Et je pense que la question du tempérament individuel joue beaucoup aussi pour réussir à s'émanciper du discours qu'on nous a tenu depuis qu'on est enfant. Parce qu'il faut une certaine force de caractère pour être capable de dire merde à ses parents, pardon pour le mot, mais enfin d'être capable de dire bon, moi, pour le moment, je me pose des questions, je sais pas exactement où j'en suis aujourd'hui, mais en tout cas, je ne te donne pas le droit de juger la valeur de ce que je traverse actuellement comme quelque chose de déshonorant ou d'anormal, en fait.
Serge Hefez, sur l'inquiétude de Françoise à propos de son petit-fils.
Ben, je la comprends, et les chiffres vont dans ce sens. Alors, je rejoins tout à fait, évidemment, Olivia Benhamou. Moi, quand j'écris un monde où on pourrait dissoudre les identités, c'est évidemment un monde idéal. Il faut bien se raccrocher à une identité à un moment pour pouvoir s'en émanciper dans un deuxième temps. Mais ça me paraît intéressant quand même de tendre vers ça. Mais si ces chiffres sont si catastrophiques autour de la bisexualité, à mon avis, c'est lié à deux raisons. C'est-à-dire, on vit effectivement dans un monde où il faut choisir son identité, il faut choisir son camp. Or, les bi, ils apparaissent souvent comme des traîtres. Ils apparaissent comme des traîtres au milieu homosexuel, finalement, en trahissant l'engagement autour des causes homosexuelles. Ils apparaissent comme des traîtres auprès des hétéros parce que, justement, sournoisement, ils vivent des expériences homosexuelles. Donc, ils sont effectivement classés nulle part. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'entends beaucoup, c'est que la bisexualité, ok, pourquoi pas, on veut bien l'admettre, mais ce qui est compliqué, c'est la bigamie. C'est-à-dire que quand on est dans une situation, je dirais, stable sur le plan affectif et sur le plan relationnel, et là je parle d'hommes et de femmes qui sont peut-être un peu plus âgés, qui ont 35, 40 ans, etc. Je vois beaucoup d'hommes, par exemple, hétérosexuels, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui tombent amoureux d'un homme parce que voilà, ils ont cette potentialité bisexuelle, ils veulent vivre une relation sexuelle et romantique avec un autre homme. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est que même si sa conjointe peut tout à fait admettre intellectuellement que son mari est bisexuel, même ça peut être quelque chose d'attrayant pour elle, mais par contre, le fait de vivre deux relations en même temps devient extrêmement douloureux.
Camille Tesca, vous avez envie de dire à Françoise, pour terminer
Déjà qu'avoir une grand-mère qui se pose la question de
c'est déjà formidable.
La santé mentale de ses petits-enfants bis, c'est ultra touchant et magnifique. Quand on est bisexuel ou quand on est minorisé de manière générale, avoir des alliés dans sa famille, c'est quelque chose de très très important. Et donc vous disiez, j'ose pas trop lui en parler, mais allez-y, parlez-en, posez des questions et montrez que vous êtes de son côté. Et je pense vraiment que c'est un plus énorme, quoi.
Françoise, vous avez le mot de la fin.
Il a un caractère fort, mais avec les chiffres que vous avez donnés, ça m'inquiète quand même.
Mais parlez-en, ma chère Françoise. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 01 45 24 7000.
Merci.
Les bisexuels, et vous le racontez dans votre livre, Camille Test, sont de plus en plus nombreux chez les moins de 30 ans. Selon une recherche de l'INSERM, Contexte des sexualités en France, publiée en 2024, les moins de 30 ans qui se disent bisexuels sont 5 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Et que dire par rapport à notre époque, Olivia Benhamou, dans les années 80-90?
Alors, on n'est pas face à une épidémie de bisexualité.
Non, voilà.
C'est simplement qu'il est aujourd'hui, je crois, plus facile de se rendre compte qu'on est attiré par plusieurs genres, aussi parce que, par chance, le monde a évolué, qu'on est quand même dans un monde qui est moins homophobe, même si le backlash réactionnaire de ces derniers temps n'est pas très rassurant.
Backlash, c'est retour de bâton.
Voilà, retour de bâton, ou l'impression que finalement, on est plus réac maintenant qu'il y a ne serait-ce que 10 ans sur certains points. Et donc, bref, il y a plus de souplesse, on l'a dit, notamment auprès des jeunes. En fait, ça ne veut pas dire que les jeunes sont plus bi par leurs attirances, mais qu'ils se disent un peu plus bi. En fait, ça veut dire que moi, ma théorie, c'est qu'au moins 10% des gens, du coup, sont bisexuels. Et donc, que c'est bien, quand on parle, par exemple, de ces chiffres terribles sur la santé mentale, que c'est bien un problème de santé publique, hein, puisque ça concerne au moins une personne sur 10.
Et puis, une chose qui vous agace, c'est quand on dit que la bisexualité est un phénomène de mode. Elle existe probablement depuis la plus haute antiquité et probablement avant.
On a effectivement tendance à entendre, oui, mais si vous vous dites bi, c'est pour être cool, c'est pour avoir l'air cool. Donc oui, en fait, des bi, il y en a toujours eu. Hein. Même Jules César, on disait de Jules César qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ses pratiques et de ses attirances. Et on a souvent aussi tendance à accuser les stars contemporaines, hein, Lady Gaga, Madonna ou autres, ben de parler de leur bisexualité parce que ça serait finalement une façon d'avoir l'air cool, un peu subversif, un peu de frais, et puis d'attirer les publics queer pour leur vendre des CD. Je peux parler ici d'un stéréotype biphobe, hein, si vous le dites, arrêtez de le dire, parce que quand on se rend compte de la réalité qui vient avec la bisexualité, le fait de devoir toujours se justifier, on l'a largement discuté dans cette émission, il n'y a rien de moins cool et de moins agréable à supporter, donc voilà, je pense qu'on peut arrêter avec ce stéréotype.
C'est sous la plume du psychiatre austro-allemand Richard von Krafft-Ebing que le terme bisexuel apparaît. Krafft-Ebing est considéré comme le père de la sexologie. Alors nous sommes à une époque, hein, on est au 19e siècle, au mi-temps du 19e siècle, et nous sommes à une époque de classification qui permet de contrôler les individus, de les hiérarchiser par rapport à un régime d'hétérosexualité obligatoire.
C'est rigolo parce qu'en fait, peu de gens savent que les mots homosexualité et hétérosexualité viennent plutôt d'un monde militant, hein, qu'ils ont été justement, surtout le mot homosexualité utilisée pour qualifier ces hommes qui étaient pénalisés, poursuivis parce qu'ils avaient des pratiques de type sodomie, hein, et que en fait on a besoin justement d'un mot pour qualifier des gens qui sont injustement victimes d'une stigmatisation. Et puis effectivement, de là, des premiers sexologues vont s'emparer de cette terminologie. Plus tard dans les années au XXe siècle. Ouais. Et quand Krafft-Ebing met le mot bisexualité sur les gens qui sont attirés à l'époque, on va dire, par les hommes et par les femmes, il le fait évidemment pas pour émanciper les bi, mais pour en faire une catégorie de plus à pathologiser. C'est les mêmes années où apparaissent le sadisme, oui, masochisme, par exemple, c'est ces années-là, hein, où on va vraiment pathologiser des pratiques dites déviantes, et puis ça va durer tout au long du XXe siècle, voire encore maintenant, évidemment.
Que vont apporter les travaux du scientifique américain Alfred Kinsey, notamment l'échelle de Kinsey?
Alors, Alfred Kinsey, c'est un chercheur des années 40-50, hein, 1940-1950 aux États-Unis, qui en a un petit peu marre justement de cette dichotomie homo-hétéro qui, entre-temps, s'est imposée au XXe siècle parce qu'il voit bien qu'en fait, les orientations sexuelles, elles sont beaucoup moins binaires que ce qu'on pense. Donc, il va lancer avec des assistantes, une grande étude à travers les États-Unis où il va poser des questions aux gens de type avez-vous déjà été attiré par quelqu'un du même sexe que vous? On parle de sexe à l'époque. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que ça va évoluer, etc. Et puis, il va se rendre compte que si effectivement l'hétérosexualité reste majoritaire, il y a non pas un pendant seul qui serait l'homosexualité, mais plusieurs pendants, un spectre. Il va créer une échelle, l'échelle de Kinsey. 0, vous êtes hétéro, 6, vous êtes homo, et entre les deux, vous êtes plein de choses différentes. Et le plus drôle, c'est que Alfred Kinsey, au début de cette étude, est plus ou moins à 1 ou 2, donc persuadé d'être plutôt hétéro. À la fin, il est à 3 ou 4, donc il est clairement bisexuel.
Et il existe également la grille d'analyse de Fritz Klein, qui intègre des paramètres comme l'attirance sexuelle, les comportements sexuels, les fantasmes, les préférences émotionnelles, les styles de vie homo ou hétéro, ou les termes qu'on utilise pour se qualifier soi-même. Et ce qu'on peut retenir de cette grille d'analyse de Fritz Klein, c'est que la bisexualité est une orientation sexuelle protéiforme et pas du tout monolithique.
Il y a autant de formes de bisexualité que de personnes bisexuelles. Et c'est ça qui énerve tout le monde, mais pourtant...
Olivia Benhamou.
Juste pour préciser sur Richard von Krafft-Ebing, l'auteur des Psychopathia Sexualis, c'était un médecin légiste, en fait. Mm. Hein, lui, il travaillait, il était un auxiliaire de la loi. Donc, il a fait l'inventaire de tout ce qui était pénalement répréhensible. Mais il parle autant des bisexuels que des fétichistes du mouchoir, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de revoir ça et de remettre ça aussi dans le contexte historique, qui est que tout ce qui n'était pas une sexualité destinée à la reproduction a été considéré comme perversion pendant des siècles. Hein.
Donc, y compris l'hétérosexualité plaisir, entre guillemets. D'ailleurs.
Complètement. Donc, d'où la difficulté à obtenir la contraception, etc. Et les difficultés qu'on a toujours autour de l'IVG, malgré sa constitutionnalisation.
Serge Fez, avant d'écouter Marco qui nous a appelé au 01 45 24 7000.
Oui. Oui, on est dans cette discussion sur la création même de la psychiatrie, hein, pas seulement des catégories sexuelles, et Krafft-Ebing a été un précurseur par rapport à ça, c'est-à-dire un obsédé de la norme, en fait. C'est-à-dire tout ce qui sort de la norme hétérosexuelle et du coït hétérosexuel dans la position du missionnaire, parce que sont considérées comme perversion toutes les autres postures que prennent les hétérosexuels pendant leur sexualité. Donc, si vous voulez, tout est classifié à ce moment-là, et toutes ces classifications créent des identités, malheureusement, qui enferment les gens dans un stigmate et dans des stéréotypes. Celui qui nous permet de sortir de ça, un tout petit peu plus tard, c'est Freud. On y arrive. Parce que Freud, justement, il est le premier à parler de cette question de la bisexualité.
Et la bisexualité psychique.
La bisexualité psychique, mais il n'en parle pas comme d'une maladie, pas que psychique d'ailleurs. Il n'en parle pas comme d'une maladie, mais au contraire, comme d'une norme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit tous les enfants sont bisexuels, sont pansexuels. Ce qui leur importe, c'est leur plaisir, c'est de découvrir le monde, c'est de découvrir leur plaisir. Et ensuite, par l'effet des normes sociales, par l'effet des contraintes sociales, ils vont être dirigés dans une direction ou dans une autre, vers laquelle ils n'auraient peut-être pas été si on avait laissé cette sexualité continuer à s'épanouir telle qu'elle était. Alors aujourd'hui, effectivement, les contraintes des normes sont quand même devenues moins fortes, c'est quand même une bonne nouvelle de notre époque. On est moins contraint de se conformer à ces normes très, très, très normées, si je peux dire, que nous propose la société. Et donc ça explique, bien évidemment, qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui s'épanouissent dans la bisexualité parce que rien ne les contraint à choisir une direction.
Et nous accueillons Marco. Bonjour Marco.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors la question que je me posais, elle est un peu en lien avec ce qui vient d'être dit, était quelle est la part génétique d'orientation sexuelle ? Voilà, à quel point est-ce qu'on est bisexuel ou non ? Alors est-ce que vous, votre question de l'émission, c'était est-ce qu'on est tous bisexuels ?
Un peu.
Voilà, est-ce qu'il y a une est-ce que on peut ne être pas du tout bisexuel, génétiquement ou pas.
Alors, c'est une vaste question, mon cher Marco, qui nécessiterait plusieurs émissions. Et je laisse la réponse à Serge Efez. Débrouillez-vous, Serge Efez, avec cette question pertinente de Marco.
Mais si vous voulez, si on pense à un substrat génétique à nos comportements sexuels, ça voudrait dire qu'à partir de ces gènes, tout le monde aurait le même comportement sexuel. C'est-à-dire que tous les homosexuels seraient pareils, parce qu'ils auraient le gène de l'homosexualité. Et pareil pour les bis. Or, on voit bien que c'est absurde. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons d'être gay, il y a 1000 façons d'être bisexuel, il y a 1000 façons d'accueillir l'autre, il y a 1000 façons que la vie vous fasse changer. Or, jusqu'ici, on n'a trouvé aucun gène qui soit un substrat unique aux attirances et qui soit un substrat unique à la sexualité. Les expériences de la vie depuis la petite enfance prennent beaucoup plus d'importance dans notre comportement que ce que nous autorisent nos gènes.
Merci beaucoup Marco de nous avoir appelé. Tiens, une précision, Olivia Benhamou.
Non, pour rebondir, c'est-à-dire qu'en effet, on peut aussi considérer, et grâce à Freud, on sait que la sexualité infantile existe. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même sexualité que la sexualité génitale des adultes.
On précise.
Ça, c'est important de le dire. Et que les premières expériences d'excitation sexuelle, mais qui sont involontaires d'une certaine façon, c'est une découverte un peu par hasard des plaisirs corporelle que la stimulation peut procurer et que ces expériences-là, elles se font le plus souvent avec les camarades qu'on a autour de nous. Donc, il n'y a pas de choix à ce moment-là d'identité de genre en termes de partenaire. C'est-à-dire que on a des copains, filles, garçons, peu importe en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir la différence anatomique, de voir ce qui se passe sous les jupes et derrière les pantalons. Voilà.
Alors, on s'intéresse au préjugés qui pèsent sur les bisexuels. Ce sera juste après avoir écouté Samara Racine, What Will They Say, 10h45 sur Inter.
Starting to feel like the Hamptons. Upgraded sofa space, this room feel like a mansion. The creaky doors have triggered nightmares of invasions. And now my biggest fear is more expansive invitations. But
You ain't grateful, then you guilty. It's niggas living filthy. This world is caving in on us, whichever way you tilt it. This shit collapsing left or right, whichever way you building. And Jane taught me raging hate, so it's a sneaky feeling. Be careful, pretty packaging and acting badly. When violence more contagious than a neighborhood that's happy. Remind myself, relax my face after parking, try text me. Cause being tense more taxing than the greedy niggas asking. That greedy nigga passing might make a holiday. Swear pots and pans will cause a ruckus like the silence may. Well, sayings don't hold weight when it's the stoning age. And speaking up can't wait until your judgment day. But still we straight, cause what will they say? My biggest fear is going out before nobody gon' know of me. Lay to waste my contribution for existence of poetry. Live too much, the only thing left to do is dying, it's boringly. My biggest fear is loving somebody who is extorting me. Watch the cities burn around the world and ain't saying anything. Reflection burning to my eyes of silent enabling. Sitting in the water, watching temperatures cross the seas. Let hate win over love, cause I ain't hug up on the trees. My biggest fear is hearts can be influenced through a music piece. The only way to change is near-death experience. Experience globally, meteor come forth before my anti-ing socially. While party hating on me instead of whole heart supporting me. My biggest fear is being on the wrong side of history. And where we all went wrong is just oblivious mystery. My biggest fear ain't they biggest fear, it sadly shows. Let meteor come take us, leave us dying to know. What would they say?
Sama Racine interprétée What Will They Say.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Sommes-nous tous un peu bisexuels ? C'est notre thème ce matin dans Grand Main Vous Fasse avec l'autrice Camille Test qui publie un bel essai « Embrasser la bisexualité » avec la psychologue clinicienne et sexologue Olivia Benamou et avec le psychiatre et psychanalyste Serge Effez. On en parlait hors antenne, on se demandait si au fond ce qui dérangeait avec les bisexuels c'est pas peut-être le fait de prendre du plaisir des deux côtés, Olivia Benamou, et d'assumer ce qu'ils sont.
Oui, alors je ne sais pas pour la bisexualité, mais je dirais que de manière générale, le fait
d'assumer
d'être
leur sexualité,
une personne
plurielle,
adulte qui est à l'aise, qui est bien dans sa peau, qui peut assumer d'avoir des désirs sexuels, de mener à bien une vie sexuelle satisfaisante, amoureuse, enfin d'être épanouie. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien aussi avec toutes les oppositions auxquelles on fait face aujourd'hui en termes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Enfin, pourquoi il y a autant de réticence à instruire les enfants et les adolescents sur ce que c'est que la vie affective et sexuelle, comme si le fait de pouvoir viser une vie adulte sexuelle épanouie, quelle que soit son orientation, était un problème en réalité.
Camille Test.
Bah, c'est vrai que quand on est bi dans le monde hétéro, on doit justifier de nos attirances homosexuelles, et puis après on va dans le monde LGBTQ+, on doit aussi justifier de nos attirances hétéro. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent c'est plus facile quand on dit oui, je suis hétéro, mais je me soigne. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une authenticité à laquelle on n'a jamais vraiment droit. On doit aussi justifier, pour prouver qu'on est bi, et bien prouver qu'on a bien eu des partenaires de tel et tel genre, qu'il y aurait presque une espèce d'exigence à être à 50-50, ce qui en fait est absurde, parce qu'en fait chaque, on l'a dit, hein, chaque bisexualité est différente, et oui, c'est vrai, on ne nous laisse pas tranquilles, et quand nous laisse tranquilles, c'est parce qu'on nous invisibilise, et on imagine qu'en fait on n'existe vraiment pas, ou qu'on est en train de mentir pour, on l'a dit, attirer l'attention, parce qu'on serait des menteurs compulsifs,
oui,
et compulsifs.
Parce que vous revenez longuement dans votre livre, Camille Test, sur les stéréotypes, les préjugés qui pèsent sur les bisexuels, qui seraient indécis, incertains, malhonnêtes, opportunistes, hypersexuels, voire dégoûtants et pervers, avec une critique qui revient, c'est l'instabilité, l'indécision, l'incertitude. Comment expliquez-vous ces clichés, ces préjugés, ces stéréotypes dégradants et faux ?
On l'a dit, hein, tout au long du XXe siècle s'impose une dichotomie homo-hétéro qui fait que finalement la bisexualité n'existe pas comme entité stable. On parlait de Freud tout à l'heure, on a été peut-être un poil trop bienveillant, je pense, avec Freud, parce qu'effectivement, en parlant d'une bisexualité immature, infantile, vouée à disparaître pour laisser place soit à de l'hétérosexualité, soit à de l'homosexualité, eh bien, finalement, on crée un entre-deux, une zone grise dans laquelle les bis ne peuvent pas habiter, en quelque sorte, de façon stable, y compris vis-à-vis des autres. Et donc, bah, si on est instable, si on n'est pas mature, puisque la maturité voudrait dire idéalement de l'hétérosexualité ou au pire de l'homosexualité, eh bien, forcément, ça laisse place à une interprétation des autres comme des gens qui seraient des menteurs, des psychopathes ou voilà, des gens qui seraient finalement malades.
Hein. Et on reproche aussi aux bisexuels d'être des girouettes opportunistes, on les accuse d'être des touristes sexuels cherchant le meilleur des deux mondes. Je vous cite, la paix et la normalité que confère l'hétérosexualité, la liberté et le cool qu'offrirait l'homosexualité.
Alors ça c'est passionnant parce que dès lors qu'on a vu émerger du militantisme homosexuel, et je pense par exemple aux Pays-Bas dans les années 50, on voit des discours émerger, y compris donc dans les milieux gays, sur le fait finalement que les bis seraient des traîtres. Ça serait des hétéros qui pimentent un peu leur sexualité ou des gens qui ne seraient pas à même de porter les combats des homosexuels. Or, historiquement, c'est totalement faux, puisque qu'on parle des années du VIH-Sida, qu'on parle de l'époque des émeutes de Stonewall, qu'on parle de la création des marches des fiertés, voilà toutes ces étapes dans le militantisme homosexuel, on va voir des bis en première ligne qui vont porter ces combats, mais par contre, qui vont souvent devoir cacher leur bisexualité pour se revendiquer en quelque sorte que homosexuel parce que c'est plus simple comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de bis en ont marre de ça parce qu'encore une fois, une vie heureuse, c'est une vie authentique. Donc devoir cacher une part de soi, devoir finalement passer d'un placard à un autre, du placard de l'homosexualité au placard de la bisexualité, c'est pas forcément très souhaitable.
Elsa qui nous écrit « La bisexualité et la pansexualité représentent pour moi l'amour de l'humanité ». Et nous accueillons Marianne, bonjour, vous appelez d'Alsace.
Oui, tout à fait, bonjour.
Bienvenue.
Oui, alors moi c'était juste, je voulais juste rebondir un peu avec, par rapport à votre émission, parce qu'en fait je viens de prendre conscience que mon fils était bisexuel. Mm-hmm. Et en fait, pour moi c'est un non-sujet, dans le sens où mon fils, pendant très longtemps, il a 22 ans, il a eu des petites amies femmes, et en fait, et finalement, il est là maintenant, il est avec un garçon. Mm-hmm. Et en fait, c'est votre émission qui met un mot là-dessus, mais moi, pour moi, c'est pas un sujet dans le sens où mon fils, finalement, il est juste amoureux et il s'avère que là, c'est un garçon. Mmh. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire.
Ben c'est très bien, et vous allez dans le même sens qu'Hélène qui nous écrit « J'ai eu la chance de me construire dans une famille ouverte, d'esprit et tolérante. Je n'ai jamais eu besoin de faire mon coming out pansexuel auprès de ma famille ou de mes amis. » Olivia Benhamou.
Oui, en effet, ces témoignages vont dans le sens de ce que vivent beaucoup de gens, pour qui, moi, je rencontre pas mal de personnes qui me parlent effectivement de différents types de relations avec différents types de partenaires. Ils se posent plus des questions liées à, je pense là, à un homme de 28 ans qui me disait que il aimait beaucoup vivre des relations romantiques avec les femmes, mais que sexuellement, il trouvait beaucoup plus son compte dans des relations sexuelles avec les hommes et que c'était parfois compliqué à faire admettre à ses partenaires et il se posait la question justement de est-ce qu'il devait en parler ou pas et je pense que toutes ces thématiques en fait tournent autour de la question de l'intime et est-ce que effectivement on doit partager ce qui relève de l'intime avec tout le monde et peut-être qu'il faut choisir les personnes avec lesquelles on partage ces questions relatives à l'intimité.
Camille Test.
Alors moi je suis très touchée par ces témoignages de mamans pour qui c'est pas un sujet et évidemment qu'on a de la chance de vivre dans un pays où plein de gens, ne font pas des attirances romantiques et sexuelles un sujet. On vit aussi dans un pays où il y a moins d'une semaine, on avait un défilé avec des saluts nazis à Lyon. Alors voilà, c'est pour dire que moi j'aimerais savoir ce que par exemple c'était ce week-end, voilà. Forcément, on a aussi des gens comme ça, évidemment on imagine bien que les gens qui défilent dans ce type de manifestation ne sont pas pour la bisexualité ou tout ce qui sort de leurs idées. Et donc, à nouveau, c'est pour dire, si moi je porte ce sujet, c'est pas pour créer des problèmes et c'est pas pour dire oh là là, mais il faut absolument.
C'est pas du prosélytisme dans votre livre, c'est pas du prosélytisme.
C'est de dire, soyons lucides, une lucidité joyeuse, parce qu'encore une fois, être bi, c'est génial et dans un monde parfait, on s'en foutrait complètement. La réalité, c'est qu'on est quand même dans un monde où c'est important d'être un petit peu solide, d'être un petit peu conséquent sur ce qui nous arrive et ce qui nous arrive, on l'a dit, c'est des chiffres de problèmes de santé mentale et de violence plus élevés que la moyenne, donc parlons-en.
Merci beaucoup, Marianne. de nous avoir appelé. On termine avec vous, Anne-Marie.
Oui.
D'où appelez-vous, Anne-Marie ?
Puisons-la-Romaine.
Vous avez le sourire dans la voix.
Oui, 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 oui. Parce que je souris à cette émission, ça m'a fait plaisir de l'entendre. Mm-hmm. Et comme j'avais un témoignage, enfin, de bonheur et de positif à vous à dire, voilà, je vous ai appelé pour ça.
Alors, vous nous avez dit, on peut dire votre âge, vous avez un peu plus de 80 ans, c'est ça ?
Oui, oui, voilà. Oui, oui.
Et alors, qu'avez-vous vécu au cours de votre vie ? Est-ce que c'était une vie plutôt bisexuelle ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu une partenaire pendant très longtemps, et puis j'ai eu de multiples partenaires par ailleurs. Mm-hmm. Donc, alors, j'arrivais à très bien séparer les deux cases, sans mélanger, sans les faire connaître. Et j'ai vécu ça avec beaucoup de bonheur, voilà.
On sent le bonheur dans votre voix, Anne-Marie.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Qu'avez-vous envie de dire avec votre expérience à des jeunes qui nous écoutent justement, qui vivent leur bisexualité là dans les années 2020 ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
J'ai envie de leur dire de le vivre pleinement, de ne pas se faire de soucis, d'être habile pour mettre un mur entre les deux quand même. à la rigueur, avouer à l'un les infidélités avec l'autre, mais ça peut être rare. Hein. Par contre, je voulais transmettre le bonheur, voilà.
Ah ben, vous l'avez bien transmis, Camille Test.
Alors, je dois dire que, évidemment, ce témoignage me touche. Juste une petite chose, rien ne prouve que les bis sont plus volages, oui, ou plus infidèles, voilà, que les autres. C'est important de le dire, parce que c'est un stéréotype qu'on entend souvent, mais évidemment, amusez-vous.
Serge Eiffez, merci beaucoup, hein, Anne-Marie, de nous avoir appelé. Serge Eiffez.
Oui, il y a une chose importante à conclure, à retenir de cette émission, c'est l'extrême pluralité des vies et des trajectoires et des façons de vivre sa sexualité et surtout sa bisexualité. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de façons de vivre la bisexualité, alternativement ou au même moment, en ayant alternativement un partenaire puis un autre, en ayant en même temps plusieurs partenaires, en ayant une vie sexuelle très riche d'un côté de sa sexualité et beaucoup plus monogame de l'autre. Tout ça, c'est des trajectoires qui font que on peut s'interroger sur la bisexualité en tant qu'identité, si vous voulez, encore une fois. Bien sûr, c'est important de revendiquer les luttes pour la fierté de tous, la fierté gay, la fierté hétéro, la fierté bi, mais on voit dans la bisexualité s'ouvrir tout un panel d'existences extrêmement différentes et qui sont autorisées aujourd'hui. Et je me réjouis d'avoir entendu toutes ces familles, ces mamans, ces grands-mères, qui finalement accueillent la sexualité de leurs enfants et leurs petits-enfants beaucoup mieux qu'elle ne l'aurait fait il y a une ou deux générations.
Merci Serge Eiffez, en direct de votre bureau à l'hôpital. Je vous laisse à vos consultations. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Olivia Benhamou. On peut lire votre guide d'entrée dans la vie sexuelle. C'était chez... Et on peut lire avec beaucoup de profit un livre qui n'est pas du tout prosélyte, bien documenté, qui s'appelle « Embrasser la bisexualité ». C'est publié au Renversante. Tous les épisodes de Grand Bien vous fasse sont à podcaster sur l'appli Radio France. Demain, on s'intéresse aux crises adolescentes. Voilà, aux crises adolescentes. N'hésitez pas à nous appeler dès demain à 10h au 01 45 24 7000.